ça nous fait tellement de bien d'être au milieu de vous qu'on se demande... En fait, en réalité, on ne se demande pas, on sait. La bénédiction est mutuelle. Et c'est ça qui est fantastique. Tout à l'heure, après le culte, tout de suite après le culte, on va vous quitter parce qu'il y a des horaires d'avion et de trucs et de machins. Et ce qui fait qu'on vous dit au revoir maintenant, vous voyez, parce que sinon, tout à l'heure, on va rester collé quelque part. Et puis, ça va être difficile. Donc, Monique, Catherine et Philippe, vous voulez leur dire au revoir comme ça maintenant ou bien vous voulez faire des bisous à tout le monde après? on vous dit déjà au revoir. C'est pas qu'on vous aime pas, mais c'est que c'est pas nous qui avons créé les horaires de l'aéroport de Montréal. Voilà. Et vous allez nous manquer. Et vous allez nous manquer. On a tellement reçu. C'est juste génial. Voilà. Bon. Alors ça c'est la minute émotion. Hey, elle est là, la minute émotion, c'est terrible. Oh, moi, tu sais. Voilà, le titre de mon... Le thème de ce dernier partage qui s'inscrit dans ce qu'on a vécu ensemble vendredi soir, samedi matin, samedi soir, et puis maintenant dimanche matin. Le titre que j'avais donné à ce partage-là, c'est « Nous sommes... » des thermostats et pas des thermomètres. Ça va? Donc je vous rappelle la différence, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un petit peu en difficulté avec la différence. Hein. Le thermomètre, il mesure la température. Le thermostat, il règle la température. Nous sommes des régleurs de température et pas des mesureurs de température. Nous, les enfants de Dieu, nous changeons la température autour de nous. On n'est pas juste à dire ou ben il fait froid ou bien ou ben il fait chaud. On est à dire, ah, on va mettre la température du royaume de Dieu. Et pour mettre la température du royaume de Dieu, on obéit à la mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission que Dieu nous a donnée, si on veut la comprendre, il faut qu'on remonte au début de la mission. C'était quand le début de la mission que Dieu nous a donnée? J'entends, ça doit être l'accent, je pense. C'était quand? À la Pentecôte? À la croix? À la Genèse? C'est à la Genèse, les amis. C'est à la création que Dieu a donné la mission. Et c'est ça que je veux regarder avec vous, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un des groupes comme tu vas faire, quand on va récolter des aliments pour un garde-manger, quand on s'occupe des enfants, quand on parle de Jésus autour de nous, quand on distribue l'amour de Jésus autour de nous, on est toujours dans une mission qui a commencé à la création. C'est la plus longue mission qu'on ait jamais vue. Alors j'aimerais remonter un petit peu à la création et puis j'aimerais regarder avec vous quelques éléments de ces deux premiers chapitres de la Genèse qui sont tellement importants. Il y a des chrétiens, et moi j'en fais partie, qui disent « Tout est dans les deux premiers chapitres de la Genèse. » Parce que c'est le prémisse de tout. Mais juste avant, pour se faire un petit peu rigoler, moi, j'aime bien ces petites images comme ça, là. Dieu est sûr de lui. Ça va? Il n'a pas peur. Il n'y a aucun problème. Dieu existe. Et j'aime bien, ce n'est pas comme on le conçoit, c'est il existe comme il est. Point barre, comme on dit chez nous. Vous dites ça, point barre? Non? Ben, vous apprenez. Point barre. Voilà. Point barre. À la création, si on met ensemble, vous savez qu'il y a deux récits de la Genèse. Hein, il y a le chapitre 1 et puis le chapitre 2 à partir du verset 4. Il y a deux récits, puis quand on les met ensemble, on découvre beaucoup de choses très intéressantes. ce qu'on découvre, c'est qu'il y avait un jardin. Et puis, il y a la terre. Et ce n'est pas la même chose. Il y a le jardin et puis il y a la terre. Il y a les fleuves qui sortent du jardin pour aller vers la terre. Vous voyez ? Il y a un espace spécial qui s'appelle le jardin. Et puis, il y a un espace pas spécial qui s'appelle la terre. Et c'est du jardin vers la terre qu'il y a une mission. Et cette mission, on va la retrouver tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Alors, on va détailler un peu cette mission. Le jardin rayonne vers la terre. Déjà là, le jardin, ce qui se passe dans le jardin, l'homme et la femme qui sont dans le jardin, et puis ceux qui devaient découler de l'homme et de la femme, eh bien, ils étaient envoyés vers la terre pour être des thermostats et non pas des thermomètres. Seulement, avant d'être envoyés vers la terre, c'est juste important de s'imprégner de quelque chose. S'imprégner de ce qui habite le jardin. S'imprégner de la présence de Dieu. Et quand on lit les récits de la création, on voit que Dieu a mis dans le jardin des principes. Et c'est ces principes dont on doit s'imprégner dès le début. Adam et Ève devaient s'imprégner de ces principes et puis ensuite, ils pouvaient aller vers la terre. Alors après, il y a eu un bug, mais ce n'était pas grave. Vous verrez, c'est grave, mais pas si grave que ça. Le premier des principes, eh bien, c'est que Dieu est Dieu. Alors ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est révolutionnaire. Parce que l'être humain, il aime bien, et c'est ce qu'il va faire tout au long de l'humanité, il va se construire des dieux qui lui conviennent. Ça s'appelle l'idolâtrie. Hein ? Alors que Dieu est Dieu. Et dans le récit de la création, on trouve des traces de ça très importantes. Parce que le récit de la création, il n'est pas juste tombé du ciel comme ça, il a été écrit pour donner un message. Et la première chose de ce message, c'est que Dieu est Dieu. Et que tous les êtres vivants, toutes les plantes, tout ce qu'il y a sur la terre, n'est pas Dieu. Et ça, c'est polémique. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les choses de la création. Ils prennent les choses de la création pour des dieux. Vous comprenez ça ? Dieu est Dieu. À l'époque de la création, pour vous donner un petit exemple, il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune. Mais aujourd'hui, il y a encore des adorateurs du soleil et de la lune, hein, faut pas se faire d'illusions. Il y a même des gens qui pensent que la Terre est plate aujourd'hui. On trouve de tout, hein ? C'est quand même intéressant. Il y a des adorateurs de la Lune. Eh bien, quand on lit le récit de la création, quand Dieu crée le soleil et la Lune, dans le texte hébreu, c'est Dieu qui crée le grand et le petit lampion. Nous, on dit une loupiote. Vous dites ça, une loupiote ? Une loupiote, c'est une toute petite lampe, vous voyez ? Hein, t'as une loupiote là, ça éclaire rien du tout. Eh bien, Dieu, il crée la grande loupiote, puis la petite loupiote. Parce que Dieu est Dieu et que le soleil et la lune sont soumis à Dieu. Premier principe, Dieu est Dieu. Ça va ? Deuxième principe, Dieu a une intention. C'est-à-dire que la création, ce n'est pas juste un truc qui est lancé comme ça, au hasard de l'univers, et puis qui tourne dans un sens ou dans un autre, en expansion ou pas, ça dépend des théories scientifiques qu'on essaye de regarder, c'est que Dieu a une intention. Et comment on le voit ? On le voit parce que Dieu a dit. C'est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Dieu dit. Et Jésus, il est l'incarnation de cette volonté de Dieu. « Me voici », dit-il. Il est dans la volonté de Dieu. Donc la deuxième chose, c'est que Dieu a une intention. Cette animation-là, ce n'était pas prévu, ça ne veut rien dire. C'est une erreur. La troisième, c'est que Dieu se voit dans la création. Ça, c'est l'épître aux Romains, par exemple. Paul, il dit, ils sont fous, ceux qui n'arrivent pas à voir Dieu dans la création. On en a parlé vendredi soir. Hein, toute la diversité qu'on voit, toute la manière dont ça fonctionne, c'est le fruit du fait que Dieu est Dieu et qu'il avait une intention. Les zèbres, ce n'est pas un hasard. Dieu, il a décidé qu'il allait faire des animaux bizarres en blanc et noir. Et puis, il les a rayés verticalement, mais il aurait pu les rayer horizontalement. Non, son intention, c'est vertical. Il veut, il fait, il a une intention. Ce n'est pas un Dieu qui nous laisse. C'est un Dieu qui a un but, et le but, il est là dès le début, et c'est ce qu'on va voir au travers de la mission. Son but, c'est que ceux qui le connaissent règlent la température de la terre. Ça va ? Le fait que Dieu se voit dans la création, j'ai mis une petite image parce qu'on m'a appris en pédagogie qu'il faut mettre de temps en temps une image. Hein, moi, quand j'achète un livre, je regarde s'il a des images. Vous connaissez tous ça. Je sais bien que ce n'est pas chez vous, je suis désolé, je n'ai pas trouvé quelque chose de similaire. Mais ça, c'est le fruit d'une intention ou d'une érosion. Toute la création est le fruit d'une intention. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Tout fonctionne selon l'intention de Dieu. Et on essaye de poser la science et la foi. Alors, il y a des gens qui disent, il n'y a pas d'évolution, il y a de l'évolution. Moi, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que s'il y a de l'évolution, elle marche selon la pensée de Dieu. Et puis, s'il n'y en a pas, ben, ça marche selon la pensée de Dieu. Il y a une intention de Dieu. Le quatrième principe... Et ça paraît bizarre, c'est que l'humain est le sommet de la création. C'est la dernière chose. Dernière chose que Dieu a faite, l'humain. Et quand on se regarde, mes amis, nous, avec Monique, on aime bien aller visiter des zoos où il y a des animaux, parce qu'on aime bien voir des animaux. Je trouve extraordinaire de voir des animaux. Puis quand on se regarde, on n'a pas l'impression qu'on est le sommet de la création. Vous voyez, quand on voit passer un lion magnifique qui marche élégamment, puis que moi, après, je me regarde passer marchant élégamment, je me trouve pas vraiment le sommet de la création. Mais on l'est. On l'est. On l'a dit aussi vendredi soir. On est supérieur aux anges. Hey! Alors, je ne suis pas en train de dire du mal des anges, loin de là. Je suis sûr qu'il y en a par là, les gars. Il faut me pardonner si je dis une bêtise, mais les anges, c'est fabuleux. Mais dans le cœur de Dieu, Dieu a une intention pour nous supérieure. Et l'être humain est le sommet de la création. Cinquième principe, le couple est important. Ce n'est pas pour dire que si on est célibataire, on n'est pas important. Parce que l'humain est le sommet de la création. Mais le couple est important dans le sens qu'il est posé là pour déjà refléter par avance la relation de Jésus et de son Église. Et le couple est important parce que c'est à partir de là que l'être humain va devenir procréateur avec Dieu. Aujourd'hui, on essaye de détruire le couple. On essaye de dire que le couple n'est pas important, que le couple est éphémère, que le couple, c'est une invention sociale et puis qu'il faut laisser les choses se faire. Mais ce n'est pas vrai. Le couple est important. Quand Adam voit Ève, il dit « Waouh !» Ça, c'est une traduction de l'hébreu. « Elle est chair de ma chair et os de mes os. Et quand Dieu a fait le couple, quand c'est fini, il regarde et il dit « c'est très bon ». C'est la première fois qu'il dit « c'est très bon ». Jusqu'à maintenant, il a dit « c'est bon ». Et puis la dernière chose, le dernier principe, et ça on l'a vu en détail vendredi soir, c'est que nous sommes des êtres de relation. Parce que nous sommes à l'image de Dieu trinitaire. C'est-à-dire du Père, du Fils et de l'Esprit qui eux-mêmes sont constamment en relation les uns avec les autres. Et on est à l'image de Dieu. On n'est pas à l'image de Dieu dans le sens qu'on est tout puissant. On n'est pas à l'image de Dieu dans le sens qu'on est tout savant. On est à l'image de Dieu dans le sens que nous sommes relationnels et que sans relation, on meurt. Et on a besoin de la relation les uns avec les autres. Et ça, c'est les six principes fondamentaux que Dieu a mis dans le jardin. Et alors, la mission, on peut la trouver, on peut la résumer en Genèse 1:28, si vous voulez. On ne va pas le lire maintenant, mais je vais le prendre comme ça. C'est vous dire la mission qui est là, c'est-à-dire quand Dieu dit en gros à Adam et Ève, ben maintenant il vous faut multiplier, vous savez, hein, être fécond, etc., etc. On va prendre ça en détail. Eh ben c'est la mission. À partir du jardin, il va falloir faire ça. Et cette mission-là, on la retrouve tout au long de la Bible. On la retrouve chez Noé, par exemple. Quand il sort de l'arche, bing, rebolote, allez-y, remplissez la terre. On la trouve chez Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en ton nom. C'est une mission, c'est la même. On la trouve pour les disciples quand Jésus leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et l'intention de Dieu, c'était que nous ayons cette mission du jardin vers la terre. Alors j'ai pris quelques verbes qu'on trouve dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse pour essayer de décrire la mission. La première chose, il est dit à propos du jardin, et ça c'est très important, c'est à propos du jardin. Il est dit « cultiver et garder le jardin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes responsables de cultiver les principes que Dieu a mis dans la création. Ouais, happy day. Magnifique. Ça, c'est une sonnerie, alors. Ça, j'ai jamais entendu. C'est superbe. Parfait. Dieu demande à l'homme de cultiver et de garder le jardin. C'est-à-dire, nous sommes responsables de cultiver ces principes du ciel. Et c'est ce qu'on disait tout au long de ces deux jours, on est responsable de cultiver cette culture du ciel, cette logique du ciel, l'honneur qui vient du ciel, pour le vivre entre nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. Des fois, j'ai l'impression que l'Église, elle essaye de cultiver et de garder la terre. Mais elle se fatigue. Parce que ce n'est pas ça qui nous est demandé. Il est demandé qu'on garde et qu'on cultive notre jardin. Par contre, pour la terre, il y a des verbes aussi. Et j'aimerais qu'on les regarde un petit peu en détail. Je regarde l'heure, ça va bien. Je suis dans les temps. C'est magnifique. Il faut juste que je tourne mes petites feuilles parce que Souvent, j'aime pas trop avoir des notes, mais ce matin, j'ai l'impression qu'il fallait que je garde un peu mes notes. Ça avance, on est déjà à la page 4. On est en bas de la 5. Mais vous ne savez pas combien il y en a, alors. Le premier des verbes, c'est que nous sommes appelés à être féconds. Alors, bien sûr, on comprend bien qu'il s'agit de faire plein de petits-enfants. Oui, mais pas que ça. Mais quand même ça aussi. Ah ben, bien sûr. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en Europe, les familles n'ont quasiment plus d'enfants ou presque plus d'enfants. Et quelque part, une certaine forme de chrétienté est en train de disparaître avec la disparition de la natalité. C'est quand même important de réaliser ça, hein ? Mais bref, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Là, vous avez un pasteur médecin pour parler de ça si vous êtes en difficulté. C'est... Mais nous sommes appelés à être féconds, c'est-à-dire à porter du fruit. Être fécond, ça veut dire porter du fruit. Et j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à donner à partir du jardin, alors on verra qu'aujourd'hui, ben, c'est le corps du Christ. À partir du jardin, on est appelé à porter du fruit sur la terre. Bien sûr, entre nous aussi, c'est sympa d'être bienveillant, d'être patient, tout ça. Mais ce n'est pas réservé à l'intérieur de l'Église. C'est pour le donner au monde, que le monde goûte ce fruit-là. Parce que c'est comme ça qu'ils vont petit à petit réaliser qu'il y a une autre logique que celle du monde. Être fécond, porter du fruit. Moi, je vous encourage à relire Galates, Galates 5, 22 et suivant, si ma mémoire est bonne, et à vous entraîner à porter ce fruit autour de vous. Ça surprend les gens. Quand on est gentil avec eux, quand on est bon avec eux, ça les touche. Quand on est bienveillant, ça les touche. Quand on est rempli d'amour, ça les touche. Le deuxième verbe, c'est multiplier. Multiplier, là aussi, on pourrait penser qu'il faut continuer à proliférer. Oui, il faut continuer, mais c'est plus que ça. Avant d'être pasteur, j'étais mathématicien. Enfin, je suis toujours, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça me colle à la peau. J'aime ça. Mais la multiplication, c'est l'opération du royaume de Dieu. Alors j'aimerais vous faire un petit cours de mathématiques maintenant. J'étais content qu'il y ait une pause tout à l'heure pour qu'on reprenne un peu des forces, comme ça je peux faire un cours de mathématiques. Si vous prenez des longueurs, et puis que vous additionnez des longueurs, vous obtenez quoi ? Des longueurs. Et puis on a appris à l'école qu'on ne peut pas additionner des choses qui ne sont pas la même chose. Hein ? Je ne peux pas additionner, nous on dit chez nous, des pommes et des poires. Alors oui, on peut dans la compote, mais c'est autre chose. Mais on va y venir à la compote. L'addition... et puis son allié, la soustraction, c'est les opérations de la comparaison. Je mets plus de ça, je mets moins de ça, et la balance penche. Vous comprenez ? La multiplication, c'est une opération qui change la nature des choses. Si vous multipliez deux longueurs, vous obtenez quoi ? Une surface. La multiplication, ça change la nature. Et si vous prenez une surface et que vous multipliez par une longueur, vous obtenez quoi ? Un volume. Et si vous prenez un volume et que vous multipliez par une longueur, vous obtenez quoi ? La quatrième dimension, c'est l'amour de Dieu. Parce que la quatrième dimension, on ne connaît pas ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur. C'est ça qu'il voulait dire l'auteur de l'Épître. Et si vous prenez la quatrième dimension puis que vous multipliez par une longueur, c'est la cinquième dimension. Et là, on touche à nos limites. Notre cerveau ne peut pas réaliser ce que c'est qu'une quatrième ou une cinquième dimension. Mais dans le royaume de Dieu, il y a plein de dimensions. La multiplication, c'est ce qui nous permet d'entrer dans des dimensions nouvelles. Vous comprenez ça ? Donc quand Dieu nous dit multiplier, il n'est pas simplement en train de dire faites que des enfants. Il est en train de dire apportez à ce monde la multiplication, c'est-à-dire la capacité à changer la nature des choses. C'est le surnaturel. Ce monde, il est habitué à additionner, soustraire. Je me compare, je suis plus grand, je suis plus petit, je suis plus machin, je suis plus ceci, je suis plus cela. Et puis l'ennemi de Dieu, qui ne crée rien, mais qui tord tout, lui, il a pris la multiplication, puis il a fait la division. Je sais son nom. Diable, ça veut dire diviser en grec. Donc on doit amener à ce monde la multiplication, la capacité à changer la nature des choses. Et on croit que Dieu change la nature des choses. Il y a une chose qui change, par exemple, c'est le mal en bien. Ça, c'est la multiplication du royaume. Je ne sais pas par quoi il multiplie le mal pour obtenir le bien, c'est son secret, mais il le fait. Alors que ce monde n'est pas capable de changer le mal en bien. On est dans la logique du royaume et on amène ça sur la terre. Le verbe suivant, c'est « remplir ». Alors encore une fois, est-ce que c'est tous les petits bébés ? Oui ! Oui, on veut remplir la terre, mais ce n'est pas uniquement faire de la surpopulation. Remplir, c'est aussi une opération du royaume, on l'a dit je ne sais plus quand. Hein, quand vous achetez une bouteille d'eau ici, vous achetez une bouteille pleine, mais elle n'est pas pleine à déborder. Elle est pleine en dessous du goulot. Dans le royaume de Dieu, ça déborde quand c'est plein. Il y a une chose qui remplit la terre. Vous savez ce que c'est ? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu remplit la terre. On est appelé à amener la plénitude à la terre. Il ne s'agit pas de chasser le reste. La gloire de Dieu n'a jamais rien chassé. Elle remplit. C'est aussi un mystère. Hein ? Je n'ai pas le temps de vous raconter ça. Mais j'ai une bonne histoire. Je vais vous poser une question théologique. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est partout ? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est partout depuis avant la création ? Alors, question, où c'est qu'il y avait la place de mettre la création ? En lui. Dieu, quand il remplit, il ne nous chasse pas. Il nous met en lui. Et c'est ça qu'on amène à la terre. Les théologiens orthodoxes, ils ont une belle réponse. J'aime beaucoup l'orthodoxie, vous savez, les orthodoxes grecs. Ils disent, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a choisi de se rétracter légèrement pour lui faire de la place. C'est beau, hein ? C'est pas de la doctrine, mais c'est une image. C'est juste beau. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Pas les chrétiens. Oui, les chrétiens, ils nous aiment, mais c'est le monde qu'il a aimé. C'est la terre qu'il a aimé. C'est pour ça qu'il y a une mission pour la terre, dès le début. Le verbe suivant, il est un peu plus compliqué, assujettir. Ouh là là. Il y a des gens qui rêvent d'un gouvernement chrétien. Voyez, on met les chrétiens à la tête des pays et tout va bien. Mon œil. Ça m'étonnerait. Parce qu'on a beau être chrétien, on a toujours un cœur humain. Mais dans le verbe « assujettir », il y a l'idée de faire des sujets. Les sujets du roi. Les sujets du roi de gloire. Celui qui se révèle dans le jardin. Quand il est dit « assujettissez », il est dit « faites des sujets pour le roi ». Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Il y a un roi. On dit souvent, nous, on est le pays démocratique par excellence, la Suisse. Hein, je peux vous dire, on vote pour tout. Dans quelques semaines, vous savez pourquoi on vote en Suisse ? Non, mais ça, c'est un truc à vous tordre de rire. Vous savez pourquoi on vote en Suisse dans quelques semaines ? Tout le peuple suisse va aller voter comme on va voter peut-être 10 fois par année. On va voter pour savoir si on donne une subvention aux paysans qui ne coupent pas les cornes de leurs vaches. On va voter pour la dignité des vaches. On est le roi de la démocratie, nous. Mais la démocratie, ce n'est pas le gouvernement du royaume de Dieu. Le gouvernement du royaume de Dieu, c'est un roi. Et on est appelé à faire des sujets pour le roi. Nous, en Suisse, on n'a jamais eu de roi. Jamais. Toujours démocratique. Depuis 1291, démocratie. Ça va ? On est les rois de ça. Et moi, j'aime la démocratie dans les ténèbres de notre monde. Mais dans la lumière du royaume de Dieu, j'aime la royauté. Et on est appelé à faire des sujets. Dernier verbe, gouverner. Gouverner, là aussi, hein. Il y a des gens qui pensent que si les chrétiens gouvernaient, ça irait bien. Mais gouverner, ça veut dire conduire. Gouverner, ça veut dire que pour conduire comme il faut, on conduit les gens à Christ. Il faut une vision pour gouverner. On est appelé à donner à ce monde une vision du royaume pour que nous puissions gouverner ensemble en direction de ce royaume. Gouverner, ça, il y a gouvernail. On tient le gouvernail, mais on ne sait pas où on va. Ce monde ne sait pas où il va. Nous, on est appelé à lui dire, voilà où on veut aller. Mettons le gouvernail dans cette direction-là. C'est les 5 verbes que j'ai retenus des 2 premiers chapitres. La mission depuis la création, ça va, et le péché est venu abîmer la relation de l'homme avec Dieu, mais il n'est pas venu abîmer la mission. La mission, elle reste, elle est toujours restée. Il y a toujours eu un lieu où Dieu s'est révélé et un lieu dans lequel ceux qui connaissaient Dieu étaient appelés à apporter les réalités du royaume de Dieu. Jésus nous a laissé 2 paroles. Il a dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » D'accord ? Et puis il a dit, « Celui qui croit en moi, les œuvres que moi je fais, il en fera des plus grandes. » De quelles œuvres on parle ? On parle de cette mission. Jésus, il avait 2 œuvres à faire sur la terre. Vous vous souvenez lesquelles ? La première, donner sa vie pour nous sauver. Puis la deuxième ? Révéler le Père. Il le dit, hein ? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Nous, on ne peut pas donner notre vie pour sauver des gens. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Où est-ce qu'elle est, cette dame qui a été parler à son amie mourante ? Elle est là-bas au fond, voilà. Waouh, ça m'a mis le cœur à l'envers, comme on dit. C'est fantastique. Mais c'était possible uniquement parce que Jésus a donné sa vie. Dans le sens que si Jésus n'avait pas donné sa vie, tu ne pouvais pas faire ça. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Donc, ce n'est pas cette mission-là qu'on est appelé à faire en plus grand. C'est l'autre. C'est révéler le Père. Nous, ça, c'est notre mission qu'on doit faire en plus grand. Révéler le Père à ce monde d'orphelins. Alors, bien sûr que le péché est passé par là, et puis le jardin, il est fermé. Mais le jardin, il est remplacé grâce à l'œuvre première de Jésus, par le corps du Christ. Nous sommes l'Église. Et si maintenant, je rajoute le ciel et sa logique, je vais finir sur un beau dessin, je vous avertis, ça va être magnifique. C'est le ciel et sa logique qui influencent le corps du Christ. Nous sommes appelés à nous revêtir de cette logique du ciel. L'honneur, la culture du royaume, la façon dont ça marche, Dieu est Dieu, les relations, les mains, tout. Et à avoir ces 6 valeurs fondamentales. Et à partir de là, nous sommes en mission vers la terre. Et nous devons cultiver et garder le corps du Christ. Mais nous devons continuer à être féconds, à multiplier, à remplir, à assujettir et à gouverner le monde. J'aurais pu, pour être bien théologique, j'aurais pu enlever le mot « terre » et puis mettre le mot « monde ». Ce serait mieux. Je changerais ça pour la prochaine. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Toujours grâce à l'œuvre première de Jésus, il va y avoir une humanité qui connaît le Père. Vous me suivez ? Et on va aller jusqu'à l'Apocalypse, puisqu'on a commencé avec la création. Je ne peux pas vous laisser sans aller jusqu'à l'Apocalypse. Et cette humanité, c'est l'épouse de l'agneau. Depuis le début de la création, le Père avait cette intention, par la puissance du Saint-Esprit, de donner à l'homme et la femme cette mission de remplir la terre, de toucher la terre, d'amener les valeurs du royaume dans la terre, pour préparer une humanité croyante qui devient l'épouse du Fils. Nous sommes des thermostats et pas des thermomètres. On n'est pas là pour faire le diagnostic du monde. On n'est pas là pour dire ça ne va pas. On n'est pas là pour dire tout ce qui ne va pas. On est là pour changer ce qui ne va pas grâce aux valeurs du royaume de Dieu qui nous habite, de manière à ce que le jour des noces de l'agneau, l'épouse soit belle. Amen. Amen.
Amen. Je vais te demander de prier pour nous.
Oui, ça je peux faire. Mais oui.
S'il te plaît.
Seigneur, j'aime ce morceau du corps du Christ. Et j'aimerais bénir mes frères et mes sœurs, les bénir en tant que corps du Christ, en tant que porteurs des valeurs du royaume de Dieu. J'aimerais les bénir dans ce travail qu'ils ont à faire de se cultiver et de se garder de manière à ce que ces valeurs du royaume soient de plus en plus fortes et puissantes au milieu d'eux. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun, chacune, et ensemble et collectivement, ils soient dans cette mission pour cette ville, pour cette région, de transpirer ces valeurs sur ce monde, de témoigner de tes valeurs dans ce monde, de surprendre ce monde par tes valeurs. Et je te prie pour que tu inscrives en eux cette conscience que tout ce qu'ils font s'inscrit dans cette immense mission et dans cette intention que tu avais depuis l'origine. Et que nous sommes chacun une pièce du puzzle et nous avançons en direction du jour des noces de l'agneau. Seigneur, je veux bénir les pasteurs de cette église, je veux bénir leurs épouses, je veux bénir les anciens, ceux qui ont des responsabilités, tous ceux qui s'engagent. Je veux bénir ton peuple ici présent, rassemblé. Chaque action, chaque regard, chaque parole, que ce soit une grâce qui coule à partir de ton corps sur ce monde. Seigneur, je te prie pour que ce lieu soit connu. Et il l'est déjà, mais encore plus, comme étant un lieu où on vit tes valeurs. Amen.
Je te bénis, Père. Je te bénis pour cette église dans la Naudière. Je te bénis parce que déjà ils sont dans cet élan de cultiver et de garder. Et je te remercie, Seigneur, pour toute la beauté, toute la générosité, toute la créativité, tout ce qui émane déjà de cette église. Et tu es le Dieu qui multiplie. Alors multiplie, Seigneur. Multiplie dans le corps de Christ, ici, à la Naudière. Multiplie dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit, lève-toi, brille. Lève-toi, sois ce thermostat. Tu l'es déjà. Mais je t'encourage, l'Église dans la Naudière, parce que le Seigneur brille sur toi. La gloire du Seigneur brille sur toi. Amen.